France Culture.
Les informations sont présentées par Jeanne Serrin. Bonjour Jeanne.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La campagne des municipales suspendue à Lyon après la mort de Quentin hier, jeune militant identitaire de 23 ans agressé jeudi. Une enquête est ouverte. Dans ce journal, nous ferons le tour des réactions politiques ce matin. Elles sont nombreuses. L'affaire Jeffrey Epstein, auscultée par la justice française, le parquet de Paris désigne plusieurs magistrats pour analyser les documents publiés par les États-Unis. Nous tirerons le bilan de la conférence de Munich sur la sécurité qui se clôture aujourd'hui. Invité de la rédaction Cyril Brett, expert à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Enfin, les universités s'intéressent aussi au rap. À Paris 8, un séminaire décortique les clips musicaux du genre le plus écouté en France. Un rassemblement est prévu devant la Sorbonne à Paris cet après-midi en hommage à Quentin, ce militant identitaire de 23 ans mort hier des suites de ses blessures. Le jeune homme a été passé à tabac jeudi par un groupe d'individus encore non identifiés. L'extrême droite accuse des militants antifascistes. L'agression s'est déroulée en marge d'un rassemblement du collectif identitaire Némésis qui manifestait contre la tenue d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Jeanne.
Alors depuis hier, les réactions politiques sont nombreuses. Plusieurs candidats à l'élection municipale à Lyon annoncent suspendre leur campagne.
Oui, c'est le candidat UDR-RN Alexandre Dupalet qui a le premier annoncé une pause. Je ne me vois pas faire campagne dans ces conditions-là, a-t-il précisé. Suivi dans la foulée par la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi et par le candidat du centre droit, l'ancien patron de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas. Au niveau national, condamnation unanime de la violence qui a atteint un niveau inacceptable selon le premier secrétaire du PS Olivier Faure. À droite et à l'extrême droite, on accuse la France insoumise, à l'image d'Othmane Nasrou, secrétaire général des Républicains, sur France Info ce matin.
C'est une partie de la politique, et c'est surtout une partie aujourd'hui d'une mouvance qui s'appelle l'ultra-gauche. Dans notre pays, on ne devrait pas être lâchement agressé avec une forme d'ultra-violence qui, encore une fois, est aujourd'hui dans notre pays l'apanage de l'ultra-gauche.
Une ultra-gauche faite de milices, selon Marine Le Pen. Jordan Bardella évoque l'impunité de l'extrême-gauche. Discours repris par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. C'est l'ultra-gauche qui, manifestement, a tué, explique-t-il ce midi. LFI, de son côté, dénonce les conditions dans lesquelles ont pu se dérouler les affrontements. Manuel Bompard, coordinateur national du parti.
Je m'interroge aussi sur pourquoi, en marge de cette conférence, il y a pu avoir comme ça des bagarres de rue, alors que manifestement, il y avait un rassemblement qui avait été convoqué. Et il me semble que c'est de la responsabilité aussi des autorités de garantir la sécurité.
Manuel Bompard sur LCI ce matin qui accuse aussi l'extrême droite de vouloir faire basculer le pays dans la violence généralisée. Rappelons qu'à ce stade, seul le collectif d'extrême droite Némésis et l'avocat de la famille de Quentin ont livré leur version des faits. Le parquet de Lyon a lui ouvert une enquête et il expliquait hier que le contexte et les circonstances de ces faits devaient encore être déterminés.
Explication signée Valentin Gris. Emmanuel Macron dénonce de son côté un déferlement de violence inouïe et appelle à condamner les auteurs de cette ignominie. Le chef de l'État, qui a donné une interview vendredi à la radio communautaire juive Radio J, diffusée ce matin. Entretien dans lequel le président classe à l'extrême-gauche le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon. Il y émane, selon Emmanuel Macron, des expressions antisémites qui doivent être combattues. La justice française s'intéresse aux récentes révélations dans l'affaire Jeffrey Epstein. Le parquet de Paris a annoncé hier que plusieurs magistrats vont se pencher sur le dossier pour analyser d'éventuelles infractions financières ou sexuelle liée à des personnalités françaises. Une affaire tentaculaire, David Di Giacomo.
D'abord, tous les documents révélés ces derniers jours et dans lesquels des liens apparaissent entre Jeffrey Epstein et des Français vont être exploités par les magistrats du parquet de Paris. Une analyse qu'ils vont faire avec l'appui de la police judiciaire et du parquet national financier qui d'ailleurs enquête déjà sur Jack Lang et sa fille Caroline. Il faut noter aussi qu'une enquête vise désormais le diplomate français Fabrice Edan. Son nom apparaît à plus de 200 reprises dans des échanges avec le criminel sexuel américain, comme l'a révélé la cellule Investigation de Radio France. Enfin, le parquet de Paris va complètement remettre à plat le dossier qui met en cause l'ex-agent de mannequin Jean-Luc Brunel, un proche d'Epstein accusé de viol sur mineur et qui a mis fin à ses jours en prison il y a 4 ans. Si des éléments intéressants apparaissent, alors ils seront exploités dans le cadre d'une nouvelle enquête.
Et de son côté, Jack Lang dénonce un tissu de mensonges après l'ouverture d'une enquête du parquet national financier le visant pour blanchiment de fraude fiscale. Dans une interview accordée à la Tribune dimanche, l'ancien ministre de la Culture se dit dans cette affaire « blanc comme neige ». À Munich, dernier jour de la conférence sur la sécurité qui réunit depuis vendredi plus de 60 chefs d'État et de gouvernement pour débattre de la sécurité mondiale et promouvoir la paix par le dialogue. L'une des dernières tables rondes ce matin était consacrée au rassemblement des Européens sur les questions de défense et de sécurité. Éric Biegala, vous avez suivi à Munich cette conférence.
Une armée européenne, aucun des membres de l'Union ne s'accorde sur ce point, relevait immédiatement Kaya Kallas, haute représentante européenne pour les affaires étrangères de l'Union. Il faut dire que les compétences en matière de défense ont toujours été et restent de la responsabilité de chaque État européen. S'il existe aujourd'hui une convergence et des promesses de financement, y compris de la part de l'Union européenne elle-même, c'est sur les industries de défense qu'il faut faire converger avec des standards de fabrication communs, des procédures d'acquisition communes à tous les pays. Et il faut produire vite et en quantité, ne serait-ce que pour poursuivre l'aide militaire à l'Ukraine. La vice-secrétaire générale de l'OTAN remarquait par exemple que quand il s'est agi de financer les achats d'armes pour Kiev, seuls les États-Unis disposaient de matériel en stock qui pouvait être acheté et transmis immédiatement. Les pays européens ont donc acheté américains pour l'Ukraine, mais faute de pouvoir acheter européens. Pour ce qui est de l'opérationnel pur, plutôt qu'une armée européenne, on peut sans doute plutôt tabler sur la constitution, qui peut être ultra rapide, de groupements de pays pour des missions ad hoc, comme ça s'est fait en quelques jours pour des missions comme Baltic Sentry ou Eastern Sentry, la dernière, Arctic Sentry, mais aussi pour la Joint Expeditionary Force, emmenée par les Britanniques, les Norvégiens et les Danois pour la surveillance de l'Atlantique Nord, relevait pour sa part le président letton Edvards Rinkevich. La plupart de ces missions et opérations ont été organisées avec le concours de l'OTAN, mais sans celui des Américains stricto sensu, autant de linéaments d'un véritable pilier européen de l'OTAN qui, avec d'autres montages militaires comme la coalition des volontaires franco-britanniques, celle-là complètement hors OTAN, permettent d'envisager à court terme un véritable rassemblement européen sur les questions de défense et de stratégie, à défaut d'une armée européenne.
Éric Biegala, correspondant de France Culture à Munich. Alors pour dresser le bilan de cette conférence, invité de la rédaction avec nous, Cyril Brett, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Alors, l'un des grands enjeux de cette conférence était bien sûr l'état des relations transatlantiques. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a salué ce matin le changement de ton américain. Hier, Marco Rubio a appelé les Européens à se ranger derrière la vision du président américain sur l'ordre mondial, mais tout en prônant la revitalisation du lien avec une Europe forte. Son discours est-il, selon vous, de nature à apaiser les relations transatlantiques?
Oui, le contraste est fort avec les critiques idéologiques acerbes délivrées lors de la précédente édition de la conférence par le vice-président américain, et un certain soulagement se manifeste notamment à l'est de l'Europe. Marco Rubio a plutôt soufflé le chaud, alors que le vice-président Vance, en 2025, avait plutôt soufflé le froid. Mais si la forme a changé, le fond, lui, n'a pas changé. L'administration Trump, par la voix de ses deux porte-paroles, propose aux Européens une logique de bloc avec un leadership, pour ne pas dire une hégémonie américaine, à tonalité très Trumpiste.
Parmi les participants à cette conférence de Munich, il y avait aussi plusieurs représentants démocrates, Gavin Newsom notamment, gouverneur démocrate de la Californie, qui a appelé les Européens à tenir tête à Donald Trump. Cette conférence a-t-elle offert une tribune importante pour ces élus?
Oui, c'est sa vocation. Cette conférence n'est pas un sommet international. C'est pas là que se rencontrent les chefs de gouvernement pour négocier, pour se mettre d'accord dans des forums officiels. C'est une association qui l'organise et c'est une plateforme de dialogue. Il est donc naturel que les oppositions s'expriment. Les représentants démocrates ont incité les Européens à tenir bon et à rester fidèles à la ligne qui avait été choisie par l'administration Biden d'un lien transatlantique un peu plus respectueux des intérêts et des valeurs européennes, mais il faut bien voir que ce sont des voix qui sont minoritaires aux États-Unis, et l'administration Trump est en train de changer la nature des relations transatlantiques et la nature de l'OTAN. C'est moins une alliance de solidarité qu'une alliance de transactions et de rapports de force désormais.
De son côté, dans son discours d'ouverture vendredi, le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé que l'Europe devait rester prudente dans son rapprochement avec Washington. Friedrich Merz et d'autres dirigeants européens qui ont surtout rappelé que l'Europe devait miser sur ses propres forces. Fallait-il attendre plus que des déclarations d'intention à cette conférence ?
Non, c'est une plateforme de dialogue, c'est une plateforme qui permet aux différents chefs d'État et de gouvernement, qui sont nombreux à Munich traditionnellement, de s'exprimer, de donner la tonalité. On se souvient du discours de 2007 de Vladimir Poutine, où en fait, il annonçait son plan d'action pour toute l'Europe centrale et orientale. Et là, le chancelier Merz a donné sa vision des relations internationales qui viennent, pas celles qui sont passées. Il a bien insisté sur l'attachement traditionnel de l'Allemagne à l'Alliance Atlantique et au lien transatlantique, mais il a aussi, comme au début de son mandat il y a quelques mois, insisté sur le fait que sans capacité, sans stratégie, sans activité et sans vision européenne, eh bien la sécurité des Européens serait de moins en moins bien défendue. Le lien transatlantique est important, mais les initiatives des Européens sont absolument déterminantes à ses yeux, comme aux yeux du président français qui s'est exprimé là-bas.
Sur le dossier ukrainien, là encore, beaucoup de déclarations d'intention, mais pas de nouveaux engagements annoncés concernant l'aide militaire apportée à Kiev. Le sujet est-il, selon vous, passé à la trappe ?
Alors, il a été omis sciemment par Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain, et le signal est très fort. Ça veut dire que pour les Américains, l'Ukraine, c'est une question bilatérale États-Unis-Russie et pas l'affaire des Européens. On peut au moins s'en étonner, moi je m'en scandalise. Et en ce qui concerne l'Ukraine, là ça n'était pas l'objet. C'est-à-dire que cette plateforme de dialogue était consacrée cette année. Le thème était la préservation des équilibres internationaux et des mécanismes de sécurité. L'Ukraine fait l'objet d'un soutien constant et d'un soutien croissant de la part des Européens. Et ça n'est pas le lieu que les Européens choisissent et ça n'est pas le lieu le plus indiqué pour eux, pour rappeler leur soutien à l'Ukraine dans les négociations qui se déroulent et qui d'ailleurs ont peine à aboutir en ce moment. Donc non, il ne faut pas s'en étonner. En revanche, il faut vraiment relever que si les Européens veulent être invités à la table des négociations sur l'Ukraine, ils vont devoir forcer la porte.
Merci beaucoup Cyril Brett pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert à l'Institut Montaigne et spécialiste des questions de défense et de sécurité. C'était il y a une semaine la prestation du chanteur portoricain Bad Bunny sur la scène du Super Bowl près de San Francisco. Une ode à son île et à toutes les Amériques. L'artiste le plus écouté au monde, dont les textes sont étudiés dans les plus grandes universités américaines. En France aussi, la recherche s'intéresse aux musiques populaires et plus particulièrement au rap. Depuis le mois d'octobre, l'université Paris 8 organise un séminaire Musique hip-hop et rapports sociaux de pouvoir. Pablo Pérez, vous avez assisté à l'une des journées de travail.
ODD de PNL. Dans ce clip vu 235 millions de fois, les deux membres du groupe du 91 rappent depuis le haut de la Tour Eiffel.
Il y a un vrai truc de prendre la Tour Eiffel.
Lune Riboni, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication.
Mais ils mettent à l'intérieur de la Tour Eiffel une cage d'escalier. Ils déplacent un peu le quartier populaire à l'intérieur de la Tour Eiffel. Et donc il y a un geste symbolique qui est super fort. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que ce clip il était important. Et puis c'est le symbole de la musique rap qui atteint le plus haut niveau puisqu'il va se saisir du symbole absolu de la France.
Avec son collègue Kevan Jevadzadeh, elle a coordonné le dernier numéro de la revue universitaire Études et Communication à propos des clips dans les musiques hip-hop.
À travers le rap, en fait, il y a des questions qui se posent qui sont très directement liées aux rapports sociaux de genre, de race, de classe, de sexualité. Le point de départ, c'était de se dire on va faire un séminaire sur une musique qui est à la fois extrêmement populaire, mais qui est aussi, dévalorisée à différents moments ou qui peut être aussi instrumentalisé.
La sociologue Marie Sonnette Manougian tient, elle, à remettre cette étude du rap à l'université dans une perspective plus longue.
Il y a eu avant nous d'autres personnes, je pense à Anthony Péqueux, je pense à Karim Amou et d'autres, mais on était quand même assez peu nombreux à s'intéresser à cet objet, et un objet qui était vu comme non légitime et non légitime pour rentrer à l'université. On ne compte pas le nombre de réflexions qu'on a pu nous faire, nous expliquant que on n'arriverait pas à faire carrière à l'université sur ces thématiques-là, etc.
Pourtant, preuve que ces sujets intéressent, sur la trentaine de jeunes participants, plusieurs portaient un projet de recherche lié au rap.
Pablo Pérez, la France toujours en état de crue généralisée. 11 départements restent en alerte orange aux crues. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont maintenus en vigilance rouge. Quant à la météo de cet après-midi, un temps toujours très instable. 4 départements sont toujours en vigilance orange, neige et verglas. Le Nord, l'Aisne, la Côte d'Or et la Haute-Marne. Alerte orange pour risque d'avalanche dans les Pyrénées-Orientales. Des pluies sont attendues sur le reste du pays, excepté sur le pourtour méditerranéen. Du côté des températures, le redoux progresse à l'ouest, 12 à Brest, 13 à Rennes, de 10 à 15 au sud, de 2 à 6 degrés sur le nord-est. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Brice Garcia à la technique d'Alia.